Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Merci d'être à l'écoute de ces programmes partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Et merci à vous tous qui nous écoutez en ligne sur www.radiookapi.net. Nous parlons recensement, voilà, les préparatifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Avance très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler du code de conduite des agents recenseurs lors des opérations. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maître Pascal Banza, programme analyste GBV au Fonds des Nations Unies pour la population. Maître Banza, bonjour.
Monsieur Jody, bonjour aux auditeurs des Radio Cap.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants. Flatterie en République démocratique du Congo. Comment faire face aux éloges exagérés et au culte de la personnalité? On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa, dans votre magazine. Toute l'équipe de production est en place. Patrick Yassongwa, John Chibwabwa, David Moussangou, Esther Mamboté. Au micro, Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Pour participer à ce programme, composez le 086-341-28-71.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Et oui, bienvenue encore une fois dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. L'organisation du dénombrement de la population peut donner lieu à certains comportements répréhensibles de la part des agents recenseurs. La méconnaissance par la population des droits gratuits liés au recensement peut devenir un terrain propice aux exploitations et abus sexuels. Par exemple, un agent recenseur peut exiger des faveurs sexuelles ou de l'argent en échange d'un emploi, d'une assistance ou d'un enregistrement. Pour prévenir ces abus, un code de conduite des agents recenseurs a été mis en place afin de garantir la bonne marche de l'opération sur l'ensemble du territoire national. Alors, que prévoit ce code de bonne conduite des agents recenseurs? Quels sont les mécanismes sûrs et confidentiels pour dénoncer les abus? Et comment porter assistance aux victimes? On en parle ce matin dans votre magazine avec Maître Pascal Banza, qui est programme analyste. GBV veut dire, on parle de violences basées sur le genre, au Fonds des Nations Unies pour la population. Maître, encore une fois, bonjour et ravi de vous avoir dans cette émission. La première question est de savoir, un agent recenseur a demandé de l'argent ou des faveurs pour enregistrer une famille. Est-ce normal et qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci, Monsieur Jody. Je pense qu'avant de pouvoir répondre à cette question qui est très intéressante, il faut déjà que nous puissions comprendre c'est quoi exploitation sexuelle, c'est quoi abus sexuel. Je pense que c'est mieux de commencer par là et ça nous permet de pouvoir répondre à cette question.
D'accord.
Alors, comme vous l'avez dit, le principe à retenir, les opérations de dénombrement que ce soit des personnes ou de, parce qu'on parle du recensement général de la population et de l'habitat, que ce soit dans le 2, le cas du dénombrement des personnes, que ce soit par rapport à l'habitat, le premier principe c'est la gratuité des services. Alors quand on parle d'une exploitation sexuelle, on parle du fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité ou des rapports de force inégale ou encore de confiance à des fins sexuelles. Et ça répond effectivement à cet exemple que vous avez donné dans la question,
oui,
où la personne qui est censée faire son travail exige des faveurs sexuelles en échange de ce travail. Alors quand on parle d'atteinte sexuelle ou d'abus sexuel, il faudra déjà voir le fait de pouvoir soit procéder à un viol, soit à des attouchements sexuels sans le consentement de cette personne. Et dans les deux cas, l'élément important à pouvoir retenir, c'est d'abord 1, le rapport inégal de force, 2, le manque de consentement éclairé. Alors pour revenir à votre question, il faudrait déjà retenir que lorsqu'on est en face d'un tel acte, la première des choses à faire, c'est de pouvoir signaler ce cas-là. Et il y a des mécanismes de signalement qui ont été mis en place et qui seront vulgarisés au cours de toute la phase du recensement.
Oui.
La première voie de signalement, c'est la ligne verte ou un numéro téléphonique qui est disponible, auquel la personne qui se retrouve en face de cet acte ou qui est victime de cet acte pourrait appeler. Et dans le cas des figures, nous avons la ligne verte 49 55 55 qui a été mise en place, que les personnes peuvent, à laquelle les personnes peuvent appeler pour obtenir le service.
Donc on retient que le recensement est à 100% gratuit.
Le principe c'est celui-là. Il n'y a pas d'argent à demander, il n'y a pas de faveur sexuelle, il n'y a rien à pouvoir
même
faire.
Même pas la nourriture ou de l'eau à boire.
Rien.
Rien du tout.
Rien. Pendant ce temps-là, les agents chargés du recensement viennent juste pour procéder à la collecte de l'information. Donc il n'y a pas de faveur sexuelle, il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a aucun élément à pouvoir fournir pour bénéficier des opérations de recensement.
Mais le problème, c'est qu'il y a certains agents qui profitent de l'ignorance, surtout des mineurs, pour négocier des faveurs sexuelles en promettant monts et merveilles.
Exactement. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le risque zéro est inenvisageable. On ne peut pas parler de risque zéro, mais on parlera plutôt de la tolérance zéro par rapport à ces actes. Et pour répondre à cette question d'ignorance de la communauté, c'est ce qui explique notamment cette démarche que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers cette émission, c'est-à-dire apporter l'information à la communauté. Et ça, ce n'est qu'un mécanisme, parce qu'il y aura d'autres mécanismes qui seront utilisés pour que les communautés soient informées de leurs droits par rapport à toute cette période du recensement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faudrait savoir que tous ces agents recenseurs vont bénéficier des renforcements des capacités. Et c'est pourquoi on parle de code de conduite de l'agent recenseur. Ils vont également être accompagnés continuellement pendant toutes les phases du recensement à travers des activités de rappel, de formation, de sensibilisation.
Et quelle est l'importance de ces codes? C'est pour,
L'importance du code, c'est déjà pour accompagner tout le processus, mais surtout aussi rappeler aux agents recenseurs qu'ils ont l'obligation d'appliquer la tolérance zéro en matière d'abus et d'exploitation sexuelle pendant toutes les phases du recensement.
Du recensement.
Oui.
Bien, alors si je dénonce par exemple un agent recenseur pour abus sexuel, y a-t-il pas un risque qu'il reprenne mes données ou me menace chez moi?
Non. Tout a été mis en place pour que dès qu'un cas est signalé, qu'il y ait déjà un mécanisme de protection de la personne qui a signalé pour éviter les représailles. D'autre part aussi, le fait de pouvoir dénoncer permet déjà ce que nous ayons l'information, mais ça ne permet pas à l'agent recenseur de pouvoir reprendre les données. Il y a tout un mécanisme qui fait en sorte qu'une fois que les données sont collectées, elles sont tout de suite renvoyées vers les serveurs. Ça, c'est la partie technique du recensement. Et j'espère que d'autres experts passeront pour pouvoir en parler. Mais si nous restons sur les aspects d'abus et d'exploitation sexuelle, il n'y a pas de risque à ce que les informations soient supprimées ou reprises parce que la personne a refusé de donner des faveurs sexuelles à l'agent recenseur.
Ben, est-ce qu'il y a des mécanismes de protection? Par exemple, qu'une personne qui vient signaler, qui vient dénoncer, elle sera protégée.
Exactement.
Ça, c'est sûr.
Il y a des mécanismes de protection qui seront mis en place pour que la personne qui dénonce puisse être sécurisée. D'abord, il faudrait retenir un fait. La dénonciation ou le signalement, c'est le terme que nous utilisons le plus aisément possible, est un mécanisme protégé par l'anonymat. quand vous appelez à la ligne verte, par exemple, comme un des moyens, il n'y a pas lieu à ce que l'agent recenseur puisse vous retrouver et vous retracer. Il y a aussi les boîtes à plaintes, les boîtes à suggestions qui seront mises à la fois au sein de l'administration publique, dans les centres de santé, dans les écoles. Tout ça fait partie d'un mécanisme qui permet à ce que les signalements soient anonymes et permet de pouvoir protéger les personnes qui ont signalé l'information.
Bien, et comment savoir si, par exemple, les jeunes filles recrutées comme recenseurs dans mon quartier ou dans un quartier ne subissent pas des harcèlements de la part de leur chef de poule ou superviseur? Comment le savoir?
Ça c'est une très bonne question parce que c'est un des risques qui pourrait arriver. Vous savez, le recensement est une opération qui va demander un nombre important de personnes. Et donc, les risques aussi, dans ce cas-là, nous sommes en train de parler du harcèlement sexuel et beaucoup moins de l'exploitation sexuelle parce qu'on est dans le cadre des relations professionnelles. Je reviens donc en disant que plus on utilisera le nombre important de personnes, plus aussi les risques seront importants. Mais des mécanismes ont été mis en place pour que les personnes qui assurent le rôle de coordination, le rôle de superviseur, à tous les niveaux possibles, soient d'abord formées et en plus soient accompagnées régulièrement par des mécanismes qui permettent à ce qu'elles gardent à l'esprit que le recensement, et même comme toutes les opérations humanitaires, les opérations d'assistance, sont basées sur le principe de tolérance zéro des cas d'abus, exploitation sexuelle, y compris le harcèlement sexuel.
Bien, nous parlons aujourd'hui du code des bonnes conduites de l'agent recenseur. La question vous intéresse, appelez-nous déjà au 086-341-2871. 086-341-2871. Parce que je reviens à cette question parce qu'il y a certaines personnes, à cause de leur position, peuvent abuser de leur position. Il est chef de poule, il est superviseur, voilà, il en profite pour commencer à harceler les jeunes filles qui ont été recrutées localement.
Exact. En fait, quand j'ai donné, c'est pourquoi au début j'ai dit qu'il était important que nous puissions revenir sur des notions fondamentales pour permettre aux auditeurs de pouvoir comprendre quand on parle d'exploitation sexuelle, abus sexuel et même du harcèlement sexuel. La base, je l'ai dit, c'est le rapport inégal de force entre les deux personnes. Effectivement, une personne qui peut décider de votre maintien ou pas au service pourrait être tentée de pouvoir recourir ou demander des faveurs sexuelles pour vous maintenir. Mais je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Ces personnes-là sont non seulement formées, mais également accompagnées. Parce qu'il y a un mécanisme qui fait en sorte que les personnes qui sont recrutées ou qui seront recrutées dans les processus de recensement puissent signer le code de bonne conduite. Et dès que vous avez signé, vous vous engagez à pouvoir
le respecter.
Strictement le respecter. Et il faut savoir que en cas de violation de ce code, la sanction, c'est la suspension totale du contrat. C'est pourquoi on a parlé de tolérance zéro en matière d'abus et exploitation sexuelle.
Bien, nous avons une autre question et de savoir que faites-vous concrètement quand une plainte pour abus sexuel est déposée contre un agent du recensement? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Ok, merci beaucoup pour cette question. Il y a déjà ce qu'on appelle le processus administratif de vérification de l'information. Dès que la plainte est déposée, un mécanisme est déclenché pour pouvoir déjà assurer à ce qu'on puisse suivre le cas. Mais le premier élément qu'on fait déjà, c'est de pouvoir suspendre le contrat de la personne pour pouvoir arrêter, si je peux me permettre le terme, l'hémorragie ou protéger le processus de recensement. Ça, c'est la première mesure qui est prise. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette question pour que je puisse à nouveau donner
d'autres... Voilà, la question de savoir que faire concrètement quand une plainte pour abus sexuel est déposée contre un agent recenseur.
Ok, merci beaucoup. Voilà. En fait, il y a deux éléments. Premier élément, dès que la plainte est déposée, le mécanisme de pouvoir traiter cette plainte existe. Commence déjà. C'est pourquoi on parle de mécanisme de gestion de plainte. Le mécanisme existe déjà. Il y a déjà.
On va vérifier.
Oui,
les
il y a
faits.
Qui ont été formés.
Les enquêtes seront diligentées.
Faire des enquêtes. Il y a des sanctions sur le plan administratif. J'ai parlé des suspensions du contrat. Il y a aussi des enquêtes sur le plan juridique. Donc le processus est très bien établi pour assurer que les faits qui ont été dénoncés puissent être vérifiés. Mais pour ce qui concerne la victime, il y a une prise en charge qui peut être assurée. On pourra peut-être parler plus tard des mécanismes de prise en charge. Vous savez, la personne qui a été victime d'abus d'exploitation sexuelle peut subir des conséquences sur le plan de la santé, peut subir des conséquences sur le plan mental. Elle peut aussi avoir l'intention de pouvoir porter plainte, d'aller jusqu'en justice. Et donc, dans ce cas-là, il y a tous ces mécanismes qui lui permettent de pouvoir utiliser des voies de prise en charge qui sont mises en place. Déjà, par rapport à ce qui concerne la prise en charge médicale, on l'oriente vers les structures appropriées. On peut mettre à sa disposition un psychologue qui pourra l'accompagner. Et également, on peut l'assurer des conseils si elle veut porter plainte.
Voilà. Et par rapport à la protection, la confidentialité.
Exactement. Je l'ai dit. Et d'abord, il y a la question de l'anonymat, qu'on pourrait parler de confidentialité. Il faut rassurer tout le monde que les informations sont confidentielles. La personne qui a signalé les cas est protégée. Il y a tout un mécanisme de protection par rapport aux représailles. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on voudra déployer les gens sur terrain, on va toujours mettre en place un mécanisme où les gens qui partent sur terrain sont composés d'un binôme homme-femme. C'est aussi un mécanisme de protection qui permet de pouvoir prévenir la survenue des cas d'abus et d'exploitation sexuelle. Mais l'information, les informations sont traitées de manière confidentielle pour ne pas exposer la personne qui a signalé le cas d'abus d'exploitation sexuelle.
Bien. Quel est le code Nous parlons du code de bonne conduite de l'agent recenseur lors des opérations avec Maître Pascal Banza, qui est le programme analyste des violences basées sur le genre au Fonds des Nations Unies pour la population. On va accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne M. Mina Mwanda qui nous appelle depuis Kalemi. Et Blaise Saïdi de Kisangani. Eminent Mwanda, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, ainsi que à tous les auditeurs de la radio.
Oui, merci de vous éloigner de votre radio. Vous allez souvent directement à partir du téléphone pour éviter le retour désagréable à l'antenne.
Moi, je suis très loin de la radio.
Peut-être qu'on peut fermer d'abord le micro de Blaise Saïdi pour éviter ce bruit-là. Merci.
Oui, je suis là.
Allez-y, on vous écoute. Allô? Maintenant. Ça va mieux. Mmh. Allez-y.
Ok, bon. Je vous félicite d'abord parce que je sais que l'organisation de ce recensement-là est très important et tout Congolais l'attend. Mais il y a une inquiétude parce que, monsieur Jody, la bonne conduite des agents recenseurs dépendra de la manière dont ils seront traités ou soit de la manière dont ils seront déployés sur le terrain. Parce qu'on ne saura pas dire que quelqu'un qui va passer toute une journée et sans peut-être avoir les moyens de bord, lui-même sera exposé à faire des habits. Alors, c'est pour cela que pour que ces habits-là ne puissent pas être vraiment une réalité sur le terrain, je pense que les agents qui sont habilités d'organiser ces recensements-là devraient d'abord étudier des préalables parce que et déployer les agents ou soit les mettre dans de bonnes conditions selon les particularités des provinces. Imaginez-vous peut-être quelqu'un qui ira à par exemple au sud Kivu, précisément à Bukavu, si réellement le recensement sera organisé là-bas. Il faut vraiment que ces personnes-là qui vont recenser, il faut vraiment que ces gens-là, les agents recenseurs, soient bien vraiment équipés. Parce que dans notre langue, dans la langue de ma mère, on dit ceci, tout ce qu'on est en train de vouloir empêcher, donc ça existe déjà. Et quand on dit que seulement descendez, vous allez seulement descendre, il n'y a rien. Donc ce qu'on est en train de penser, ça doit toujours être là. Maintenant, comme on est en train de sensibiliser d'abord à partir de la radio, les gens qui seront dans le terrain, je pense qu'il y aura une séance de formation pour cette fin là-bas, il faut que les agents recenseurs se comportent à des citoyens responsables, de voir d'abord des côtés tout ce qu'ils peuvent avoir comme problème et de faire le travail comme il se doit. Maintenant, mes deux questions à l'invité. Parlant des codes de bonne conduite des agents recenseurs, est-ce qu'il y aura une formation au préalable pour que ces agents-là ne puissent pas commettre les abus? Deuxième question, quelles sont les sanctions prévues pour un agent recenseur qui commettra des abus lors d'enregistrement des données.
Merci beaucoup. On va donner la parole à Blaise Saïdi depuis Kisangani. Bonjour, Monsieur Blaise. Blaise Saïdi, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro. Blaise Saïdi depuis Kisangani, bonjour. Bien, on va le rappeler, il va nous rappeler certainement. Nous parlons du code des bonnes conduites, du code des conduites des agents, de l'agent recenseur lors de l'opération de dénombrement. Maître Banza, vous avez suivi les préoccupations d'Emina Mwanda. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci beaucoup à Emina Mwanda pour ses préoccupations qui sont, je l'imagine, les préoccupations de beaucoup de ceux qui suivent l'information au sujet de l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat à l'RDC. Je voudrais déjà le rassurer en disant que pour ce qui concerne la première question sur les renforcements des capacités des agents recenseurs, c'est effectivement prévu et nous l'avons dit tout au long de l'émission. Toutes les personnes qui seront impliquées dans ce processus, dans l'organisation de ces recensements, seront obligatoirement formées sur le code de conduite de l'agent recenseur pour protéger les communautés contre les abus et exploitations sexuelles. Et je l'ai dit un peu plus haut, un code suppose une signature, un engagement. Maintenant, deuxième question, quelles sont les sanctions prévues pour cette personne? La première de sanctions, nous l'avons également dit, c'est d'abord des sanctions sur le plan administratif. On a parlé de la tolérance zéro à l'inaction. Ça implique qu'une fois que la personne a été un signalement a été fait au sujet d'un cas d'abus d'exploitation sexuelle, la sanction c'est déjà de pouvoir arrêter les contrats et après tous les processus pourra suivre par rapport aux enquêtes sur le plan administratif. Mais également aussi la personne victime peut porter plainte et on pourra déclencher maintenant tout ce qui est de la procédure judiciaire et juridique telle que prévoient les lois de la RDC.
D'accord. Donc on retient qu'ils seront, toutes ces personnes recrutées seront formées au préalable.
Exact.
Et en plus, ils seront même au courant des sanctions qui vont arriver en cas d'abus. On va accueillir M. Blaise Saïdi depuis Kisangani. Bonjour M. Saïdi.
Oui, bonjour cher Jody, bonjour l'invité, bonjour auditrice auditeur de la Radio Capi. Et une fois de plus, félicitations au magazine au Capi Service pour la sélection de la thématique concernant les recensements, puisque ça ne passe pas deux semaines sans que les magazines au Capi Service puissent sensibiliser la population à ce niveau-là. Félicitations vraiment. Voilà, le code de bonne conduite est très indispensable pour prévenir les abus et garantir un recensement transparent et précis. Donc, il est urgent que la population doit connaître ses droits et dénoncer tout habit, tandis que les agents recenseurs doivent agir avec l'intégrité, le respect et la responsabilité. Permettez-moi à poser quelques questions à l'invité. La première question, comment protéger efficacement les victimes contre les représailles après une dénonciation? C'est ça la première question. La seconde question, comment la population peut-elle reconnaître un véritable agent recenseur et éviter les anarchies? La troisième question, que risque un agent recenseur qui exige de l'argent ou des faveurs sexuelles à la population, puisque au regard de la thématique. Et avant de chuter, quels mécanismes permettent aux victimes de dénoncer les abus en toute sécurité et d'obtenir une assistance? Je chute ici. Que prévoit concrètement le code de bonne conduite de l'agent recenseur? Je me limite à ce niveau-là pour laisser placer à d'autres personnes. Cher Jody.
Bien, merci M. Saïdi depuis Kisangani. Maître Banza.
Merci beaucoup M. Saïdi. La multitude des questions posées montre effectivement l'intérêt à ces sujets. Première question, c'est celle de savoir comment protéger efficacement les communautés contre les représailles. Je pense qu'on revient sur ce qu'on a dit premièrement. Le premier élément à retenir déjà, sont toutes ces campagnes d'information, de sensibilisation qui sont mises en œuvre, qui participent à la protection. Parce que celui qui sait peut facilement se protéger en cas de sollicitation ou en cas d'abus d'exploitation sexuelle. Mais au-delà de l'information, il y a le code lui-même qui informe l'agent recenseur, mais nous avons les voies de signalement qui ont été mises en place. On peut parler des dénonciations. Ceci permet de pouvoir assurer à ce que la communauté puisse facilement relayer l'information et obtenir une sécurisation. Et je reviens aussi sur le fait que les agents recenseurs seront toujours déployés en binôme, homme-femme. Ça permet de pouvoir réduire
les
risques d'abus d'exploitation sexuelle. Ça revient un peu à la question de l'auditeur précédent qui disait qu'est-ce qu'on met en place pour assurer à ce qu'il n'y ait pas de risques. Vous savez, quand peut-être on déploie deux hommes seuls dans une zone reculée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un risque.
Les risques sont élevés.
Voilà. Mais lorsqu'on part en binôme homme-femme, ça réduit les risques et ça permet de pouvoir protéger les communautés. Alors, la deuxième question était de savoir comment reconnaître les vrais agents recenseurs pour éviter de ne pas tomber dans les arnaques.
Les arnaques, oui.
Ils seront, bien entendu, très bien identifiés à travers un badge, à travers tous les mécanismes que le gouvernement qui organise le recensement pourra mettre en place. Et comme je l'avais dit, au fur et à mesure que les émissions sont organisées, des techniciens pourront passer et je pense qu'ils reviendront encore plus dans les détails par rapport à la question de Saïdi. Mais il y avait la troisième et la quatrième question de Saïdi que je n'ai pas bien suivie. L'une, c'était par rapport au risque, je pense. Mais si
vous il a parlé aussi de que prévoit le code de bonne conduite.
Ah,
il veut savoir les prescriptions. Qu'est-ce que ce code prévoit exactement?
Exactement. Je vais résumer ces codes-là en trois éléments importants. Le premier élément, c'est la tolérance zéro. C'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début de l'émission. C'est l'interdiction absolue de tout acte d'abus et d'exploitation sexuelle, y compris les cas de harcèlement sexuel. Aucune circonstance atténuante n'est acceptée. Donc on ne peut pas venir avec des justifications, on ne peut pas prétester qu'on ne connaissait pas l'âge, par exemple, de la victime, parce que ces personnes-là sont informées. Ça, c'est le premier principe.
Non, je l'ai vu, la fille avait l'air d'être majeure. Voilà.
Il y a même d'autres qui viennent qui disent, voilà, c'est elle qui a fait le premier pas.
Le premier pas, voilà.
Donc moi,
je n'avais aucune intention.
Je n'avais pas de choix, je n'avais pas d'intention, c'est elle qui a commencé. Donc le principe, c'est la tolérance zéro. Ça, ils seront formés et ils le savent. Le deuxième principe du code, c'est l'interdiction des transactions. Pas d'échange, ni des biens, ni de l'argent, ni de faveurs sexuelles contre un service, par exemple le dénombrement, ou peut-être le fait d'être enregistré, ou l'emploi pour ce qui concerne les recrutements. Donc tout ça, c'est totalement interdit. Le troisième principe sur lequel repose le code de bonne conduite, c'est l'obligation de pouvoir signaler. Donc les agents recenseurs eux-mêmes sont aussi tenus de pouvoir signaler immédiatement toute suspicion d'allégation d'abus d'exploitation sexuelle, y compris de harcèlement sexuel, à travers des canaux confidentiels. Nous avons parlé de la ligne verte, nous avons parlé des boîtes à suggestions, il y a même une adresse e-mail qui existe. Donc d'abord à leur niveau, ils sont aussi tenus, lorsqu'ils sont informés d'un cas d'abus d'exploitation sexuelle,
de pouvoir les signaler directement.
Voilà, et directement. Et comme la communauté à laquelle on demande de pouvoir signaler, eux également le font. Alors la quatrième question, je crois, c'était sur les mécanismes de prise en charge. Je pense le mécanisme de protection. Alors je pense que je l'ai dit au début, dès qu'on a signalé les cas, on a donné l'information, les mécanismes d'accompagnement existent. La personne, la victime, peut avoir besoin d'une prise en charge médicale. On va la référer vers les structures et en RDC, au-delà de pouvoir travailler avec les hôpitaux, nous avons un mécanisme, le Centre intégré des services multisectoriels, One Stop Center, qui permet de pouvoir assurer une prise en charge holistique dans un environnement confidentiel, sûr, où les personnes peuvent partir. Et en cas de menace de représailles, nous l'avons dit, la personne qui dénonce ou qui signale les cas bénéficie déjà du principe de l'anonymat, ce qui réduit les risques de pouvoir être identifié par la personne contre laquelle le signalement a été fait. Mais si ça nécessite plus de mesures de protection, on sait ce qui pourrait être accompagné par la suite. Donc, voilà. Et peut-être je reviens un peu sur la question de comment reconnaître un agent recenseur. Bon, j'ai parlé des éléments de visibilité.
Les badges, par exemple. Il y aura des gilets.
Voilà. Mais ils auront aussi, on pourra les identifier à travers un sac au dos qu'ils vont porter, bien entendu, pour prendre tous les éléments dont ils auront besoin. Une tablette, peut-être le téléphone. Et au dos de ce sac à dos et de tous les documents qui vont être utilisés pendant le recensement et aussi peut-être de tous les supports de visibilité qui seront utilisés ou de sensibilisation, vous aurez toujours ce numéro vert là qui permet de pouvoir signaler en toute sécurité. Et je le rappelle pour que les auditeurs le retiennent encore mieux, le 49 55 55. Voilà.
Voilà, c'est ça le numéro vert. Hein? Oui. 49 55
55.
Bien, nous parlons du code de conduite des agents recenseurs lors des opérations de recensement lorsqu'ils seront déployés sur les terrains. Eh bien, il y a un code de bonne conduite qu'il faut respecter en cas d'abus. Voilà, on nous a donné les mécanismes, la procédure à suivre. Vous voulez participer à cette émission, composez le 086 341 28 71. 086 341 28 71. Bien, une autre question, Maître Banzai, de savoir quel est le numéro exact, le moyen le plus rapide pour signaler un abus dans un village, par exemple. Vous avez donné le numéro vert, mais il y a des endroits, des zones où la communication est très difficile, il n'y a pas de réseau, ça passe pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont prévus?
Exactement. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, ou peut-être même là où les réseaux passent, qu'il y a un peu de bug sur les réseaux. Alors, pour permettre aux communautés de pouvoir aller au-delà de ce moyen-là, il y a aussi ce qu'on appelle les mécanismes communautaires de plainte, de gestion des plaintes, qui est composé notamment des boîtes à plaintes où les gens peuvent rédiger leurs plaintes et pouvoir déposer dans cette plainte-là. Peut-être une des questions qui revient assez souvent dans ce genre de débat, c'est de savoir, et si la personne ne sait pas écrire, si elle ne sait pas se rendre vers le centre de santé ou vers l'école ou encore vers l'administration publique pour déposer sa plainte, comment elle pourrait signaler les cas. Et c'est comme ça qu'on a des mécanismes qu'on appelle les mécanismes de points focaux. C'est des gens qui sont dans la communauté, qui bénéficient d'un privilège, d'un respect, d'une certaine dignité dans la communauté, qui seront formés comme des points focaux communautaires. Donc, en cas, dans l'hypothèse où la victime ne sait pas lire et écrire, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, ou ne sait pas se rendre vers les points où sont les boîtes à plaintes, il y aura des points focaux communautaires qui, dans la plupart des cas, déjà existent. Hein, dans le cadre de la réponse humanitaire, là, on le fait.
Pour enregistrer toutes les plaintes.
Et pouvoir les aider à pouvoir signaler en toute sécurité les faits d'abus d'exploitation sexuelle dont elles ont été victimes.
Et ces personnes-là auront quelle qualité
Généralement, c'est des acteurs communautaires. C'est des membres de ce qu'on appelle
les comités locaux de développement,
les comités de base. C'est des gens qui sont...
Les notables du village.
Ça peut être une maman de la communauté, une conseillère communautaire. Ça peut être un leader d'opinion, chef de quartier. Des gens vraiment qui bénéficient d'un certain respect au sein de la communauté et surtout de confiance de la part des membres de la communauté.
Bien, nous parlons du code de bonne conduite de l'agent recenseur. On retient que le risque est zéro.
Il n'est pas envisageable.
Il n'est pas envisageable parce qu'il y aura toujours
le risque sera toujours là. Voilà. C'est plutôt l'inaction contre ces risques que pour lesquels on demande tolérance zéro.
Bien, donc l'agent recenseur ne doit pas demander de l'argent, ni des faveurs sexuelles ou de la nourriture, demander certains avantages auprès de la communauté. Il vient, il fait son travail, c'est fini, il s'en va.
Oui. On peut parler aussi des services, hein, parce que des choses auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, un agent recenseur qui dit, si vous voulez que je puisse vous enregistrer, il faudrait d'abord puiser pour moi de l'eau, il faudrait d'abord faire ceci, tout ça est exclu. Donc, tout ça est compris dans la question de tolérance zéro.
Mais quelqu'un a dit tout à l'heure que s'ils ne sont pas payés, ils n'ont pas le moyen pour faire le travail à des arriérés, tout ça, ça peut être l'occasion.
Ben, je voudrais déjà rassurer la personne sur cette question-là. Je pense que quand on a commencé à préparer ces recensements, je crois que c'est Saïdi qui l'a dit, ou peut-être le premier auditeur, ça fait des années que ces recensements ont eu lieu en RDC. Donc, des mécanismes sont mis en place pour pouvoir assurer que les agents recenseurs sont bien traités, ils sont pris en charge, sont très bien équipés pour le permettre de pouvoir faire leur travail.
dans les conditions, dans les meilleures conditions, disons. Mais malgré cela, il y a toujours quelques agents.
Oui, on pourrait parler peut-être des moutons noirs, des si on peut bien dire. Et c'est comme ça que nous avons dit que le risque zéro n'existe pas, mais des mécanismes sont pris en charge pour assurer à ce que le recensement se déroule dans des conditions qui répondent aux normes en matière de protection contre les abus et exploitations sexuelles.
Alors, si par exemple une victime vient se plaindre aujourd'hui, alors vous prendrez combien de temps pour traiter son cas et prendre des sanctions ou les décisions qui s'imposent?
Alors, ça, c'est une question importante. Le traitement de la plainte, on ne peut pas dire on le fera dans 2 ou 3 jours. Le plus important, c'est d'abord de pouvoir signaler le fait, dénoncer ces cas-là. Et dès que le signalement est mis en place, il y a déjà une première sanction qui est prise contre l'agent. Et pendant ce temps-là, il y a toute une investigation qui commence, parce qu'il faudra établir le fait, mais je ne voudrais pas trop aller sur ces terrains-là, ce n'est pas le sujet du jour. Mmh. Et donc, ce qu'il faudrait seulement rassurer à nos auditeurs, c'est qu'une fois le signalement est fait, les processus d'enquête, des sanctions, des recherches d'informations est également déclenché.
Bien, nous allons lire quelques réactions des internautes. Lorsqu'un citoyen, c'est M. Gentil Bassokomba qui nous l'a dit depuis Kananga, lorsqu'un citoyen, une femme ou une jeune fille est victime d'un abus de la part d'un agent recenseur, où peut-elle porter plainte concrètement? Existe-t-il un numéro gratuit, voilà, ça a été donné, une ligne d'alerte ou un mécanisme de plainte accessible, même dans les villages où l'accès à Internet et au téléphone est limité? Troisièmement, comment les autorités vont-elles garantir la confidentialité et la protection des victimes afin qu'une personne qui dénonce un abus ne soit pas victime de représailles ou de stigmatisations? Enfin, j'aimerais savoir si les victimes bénéficieront d'une assistance médicale, psychologique et juridique, particulièrement lorsqu'il s'agit d'exploitation ou d'abus sexuels. À mon avis, la réussite du recensement ne dépend pas seulement du nombre de personnes enregistrées, elle dépend aussi de la confiance de la population. Il est donc important que chaque citoyen sache que le recensement est gratuit et que ses droits doivent être respectés et qui disposent des moyens sûrs pour dénoncer tout abus. Je vous remercie. Voilà la réaction de M. Gentil depuis Kananga. Maître Banza.
Merci beaucoup à M. Gentil depuis Kananga. Je pense que beaucoup de ce qu'il a dit se recoupe déjà ce que tous les autres intervenants précédents ont pu dire, et on peut résumer sur toutes les préoccupations liées sur les questions de protection, et nous sommes revenus principalement sur les mécanismes qui sont mis en place, et nous avons indiqué, je reviens sur la ligne verte, la 49-55-55, qui est le mécanisme qui permet de pouvoir signaler de manière confidentielle, sûre et sécurisée les cas d'abus exploitation sexuelle. Et cela permet de pouvoir lutter contre les potentielles représailles. Mais dans les éléments de monsieur de l'auditeur précédent, il y avait quelque chose d'important. Il faudrait savoir, est-ce que les personnes victimes pourraient bénéficier de la prise en charge? Je crois que je l'ai dit, je peux revenir sur ça. Oui. Il y a tous ces mécanismes de référencement médical d'urgence dans les 72 heures qui sont déclenchés pour pouvoir assurer l'assistance à la personne, à travers les hôpitaux, les centres intégrés de services multisectoriels, et nous savons que le système sanitaire, il a cette capacité de pouvoir être déployé partout. Donc, quel que soit le coin où on est au moins sûr d'avoir un hôpital où on peut avoir une prise en charge rapide. Il y a également aussi le soutien psychologique qui est souvent assuré directement par les psychologues, les assistants psychosociaux ou même des conseillers communautaires qui sont éparpillés dans la plupart de ces structures. Et je voudrais dire aussi que le recensement n'est pas une opération isolée. C'est une opération qui va se passer dans un environnement existant, un environnement qui dispose déjà de tous ces éléments-là, de tous ces atouts et de toutes ces capacités institutionnelles. Mmh. Il y a aussi la prise en charge juridique. On offrira des conseils, l'assistance pour permettre à la personne de pouvoir constituer son dossier et, si elle le veut, pouvoir poursuivre jusqu'à la fin. Il y a bien entendu, je le disais en parlant par rapport à l'autre auditeur, tout ce qui concerne les enquêtes, les sanctions, ça va aller à travers les investigations administratives, disciplinaires et des poursuites judiciaires contre l'auteur des cas d'abus et exploitation sexuelle.
Bien, on va accueillir M. Gédéon depuis la ville de Gbadolité. M. Gédéon, bonjour. Merci d'ouvrir le micro, Gédéon depuis Gbadolité. Bonjour. Allô? Voilà, Monsieur Gédéon n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Nous parlons du code de bonne conduite des agents recenseurs lors des opérations. Maître, je pense qu'on peut dire quelques mots en Lingala ou en Swahili. En commençant avec les Lingala. Tuwebike recensement to kotanga bato eko salama na mboka Congo eko za l'année prochaine certainement siko yo bato ba okita na terrain ba bengi ba agent recenseur eza na makambo ba pekisami na bango kosala alors yebisa biso ba bengi yango code de bonne conduite yebisa biso code de bonne conduite yango elobi nini eloko nini un agent recenseur esengeli asala to asala te.
Ah, merci beaucoup pour la question. Bon, élément libosse faut qu'on ait banan ou na code de bonne conduite au lobby. Agent recenseur a quitté na terrain pour na kotanga bato. Parce que recensement ango na lingala eza kotanga muto. Pour na kotanga bato. Premier élément, il faut toyeba, c'est que mutuana to lobby tolérance zéro. Makambo moko ndimamite o sala ango te par exemple, o senga mutute ape sa onzoto po o tanga e po tchakombo na e na liste. Wane
pekisami.
Po na e pekisami. Quelle que soit condition.
Ote mwana mwasi yango ye moko muto asepe la kinanga, benga kinga, zoti mela gaba message.
Mwana, nyonso wane pekisami. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, o toki o yusabatu, c'est que tangu agent recenseur aso kita na terrain, akoki ko senga yo elo kote. O soki o lingi na tchakombo na yo, soki o lingi na natala ndangu na bino, boye na boye.
Pesanga 10 dollars.
Pesanga 10 dollars, sala boye. O nyonso wana epekisami.
Epekisami.
Élément à misatu, pour na résumer, pour les accords de bonne conduite, ango pesa mulai, pour na résumer, ango, agent recenseur yé moko, azana obligation, so ki a moni moninga na osa na makamo, azana obligation ako loba, ke, o eloko wana,
eza malamu te pe kisame.
Voilà, indimamite.
Ako ipe okendo ofunda ye?
Ake pe ofunda ye directement. Po kanal wana pe existe, ba mwen eza wana po ye moko deja ki akeyi afundi. Alors, peut-être po na population en général, so yin nga na zana cité, preno na zana ngaba, na zana njili, makambwane ye linga na osala nenini. Balobi ligne verte za wana, téléphonique, na zui téléphone na nga na composé, na zui chombo, lwa tolo wakawa, na composé.
Ou composé numéro.
49-55-55 na bengi.
Tango na eza ofele to ba unité na yo.
Te eza ofele.
Eza ofele.
So bengi eza ofele. O bengi, o signale, o pesi information, moutou tel, place tel, eloko boye, eloko boye, wana deja bisou moko to yebi, mesure nini to zwa, po na go protéger, et puis po na go sanctionner moutou wana.
D'accord. Si quoi, ce qui n'est tout d'autre travailler, na collègue Moussousou, nga na fundiye, a kouye banasima ke, nga mtou na funda ki, a rosepelate, tout ça, au moni, au pesa malamute.
C'est pourquoi tu lobby que, ko funda wana, eza confidentiel, eza anonyme. Tango yo fundinga, ok, ndo lobate ke ngande mtou na fundi un tel.
Et puis, bango kuna pe, il faut ba bomba yo.
Bango pe ba bomba yo. Information na obimate. Et puis, to lobi kanal wana swat obengi na telephone. Tango obenga na telephone, nana kouye bake yonde obenga ki na telephone. Donc, mécanisme nyon se za en place pour na koprotege mutuana zo funda, pe mutuana zo benga pour na koloba. Moninga nanga oyo na mwena zo sala boye na boye na boye. Nyon se za bien mise en place.
Et puis, bon prévoir que pour na réduire ba risque, bon ba notinda ba agent recenseur mi balé, moi sina mobali.
Voilà, to lobi ki ango na français, pour na réduire risque. Pour e sala maté ba agent recenseur ba okende moi sina mobile pour ceux que toza mi bali biso non so mi bali risque komi munene e komi élevé mais ceux que to tindi moi sina mobile wana to lobi risque kiti mwa mke risque zéro exacté mais to sala nyonso pour na assurer que to tie en place ma mécanisme de protection pour ma kamwana sale maté.
Bon, si qu'on soit dans la cas situation où bah jeune fille peut-être dans village moko bah qui va donc recruter bon chef il y a pool to superviseur il y a rejoint dans l'hôpital ngai na couper sa minute ça là facilement et puis il y a comme go kamata bah jeune fille wana et mécanisme est prévu ni na likambo wana
wana déjà quoi na auto benga qui avant exploitation sexuelle to abus sexuel donc avant na chabino na musala boya na couper sa nganzoto
couper sa nganzoto
wana to lobaki déjà et pekisami. Pour ma fille wana, ce qui kawane komi et survenir, premier élément ba signaler. Ba yebisabiso. Dès que ba signaler na ba mécanisme est en place to lobak déjà makambo ligne verte, bengi na ligne verte, bien auto bengi ba boîte à plainte. Tant ka kawane ko koma, to bandi to bengi ba sanction administrative, enquête, type wana chef wana ba tie déjà pembeni. Voilà.
Bien, on va accueillir monsieur Alexis Kianza depuis Kikwit. Bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Okapi.
Bien, nous parlons du code de bonne conduite de l'agent recenseur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, vraiment, je suis intéressé au sujet et je remercie vraiment l'auditeur du jour. C'est une bonne chose. Alors, je voulais seulement demander, alors, quels sont les mécanismes qu'ils ont prévus, ces gens-là qui seront juste dans le terrain en train de travailler, est-ce que c'est pas possible qu'ils soient accompagnés de la sécurité ou soit de la police pour qu'ils ne puissent pas subir de fois aux massacres ou aux attaques des individus barbares? Alors, en outre, ce recensement va concerner quel type de personnes ou de quel âge qu'on va tenir compte.
Bien, d'accord. Merci pour vos préoccupations. Maître Banza, vous avez la parole.
Merci beaucoup à notre auditeur Alexis depuis Kikwit. Pour répondre à sa première question, le recensement général de la population et de l'habitat, c'est une activité d'abord du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et il faut savoir que le but, c'est de pouvoir savoir combien de personnes on a en RDC, dans quel type d'habitat, et comme je l'ai dit, c'est des aspects trop techniques sur lesquels je ne reviendrai pas. Néanmoins, la communauté sera sensibilisée, informée, pour éviter à ce que les gens puissent confondre les recensements avec toute autre opération. Ça, c'est la réponse qu'on pourrait donner à ce stade à M. Alexis depuis qu'il quitte. Donc, des mécanismes sont pris en place, sont mis en place pour pouvoir informer les communautés, les sensibiliser sur l'importance du recensement. Et c'est l'un des mécanismes. Actuellement, aujourd'hui, on parle des abus d'exploitation sexuelle et dans la suite, on pourra parler des autres éléments. Alors, le recensement, on parle de recensement général, c'est-à-dire toute la population. Hein, et puis, les conditions dans lesquelles ces populations sont habitent actuellement, population et habitat. Mmh. Donc voilà un résumé par rapport à la deuxième question de Alexis.
Maintenant, comment vous pouvez toujours rappeler, vous l'avez déjà dit, mais c'est toujours important de rappeler, comment va fonctionner le mécanisme de gestion des plaintes?
Alors, merci beaucoup. En fait, le mécanisme de gestion de plaintes, il est déjà constitué, c'est tout un mécanisme, comme on dit, c'est-à-dire c'est tout un ensemble d'éléments. Premier élément, on a le signalement. L'information est reçue. Dès l'instant où l'information est signalée ou reçue, première chose, assurer la prise en charge de la victime dans les 72 heures. Et après qu'on ait assuré la prise en charge de la survivante dans les 72 heures de la victime, on déclenche tout ce qui concerne les investigations administratives. Établir les faits, savoir qu'est-ce qui s'est passé et déclencher également les poursuites sur le plan disciplinaire. Ça, c'est le plus important déjà, parce que ça, c'est quelque chose dont les organisateurs disposent. Maintenant, après, il y a les poursuites judiciaires contre l'auteur qui peuvent être entamées. Mais sur les questions de poursuites judiciaires, pour ne pas trop élargir les débats, je pense qu'on ne pourra pas en parler ici, parce que ça va dépendre de la personne elle-même qui va porter plainte et les aspects de justice commencent.
Mais déjà, la première sanction, c'est que le contrat peut être suspendu.
Suspendu. Il ne peut pas être... Il est suspendu.
Il est suspendu.
Voilà, c'est ça. Les mesures sont prises à ce niveau-là.
Bien, alors on va vous demander de passer aussi un message en swahili par rapport au code de bonne conduite des agents recenseurs lors de l'opération de dénombrement de la population.
Ok, Aksan Tisana, recensement ao kuesabia, batu, na ma condition ou bien hali mulevane kala, ni activité ya imuimu sana, ya important sana. Na ile activité, il a comporté les ma risque. Na parmi les ma risques, tu n'as notamment le fait qu'il y a ou les agents recenseurs ou leur quoi que ça s'habille à battre. Anis quoi tenter à gousser ma belle ni quoi s'habille. Il n'a pas ça par exemple. Witike, topatane,
kamamuku,
dans mon amouké. Alors tu n'as il est bitain de biote. Bina katazo. Le premier élément. Il y a un état français tolérance zéro. Ao ku katazo. Vina kataziwa. Ou à quatre agents recenseurs à ta fika mou communauté et nous. Pour n'a pas ça que joue à kwamba. Hawezi kumiomba. Kupatana kwa maungu. Ili a pouvoir kumi et sabia. Ni premier élément. Deuxième élément, ton asema. Transaction. Interdiction à transaction. Haouta omba frang. Agent recenseur. Hata omba frang. Hata omba bitu. Par exemple, tchakula. Kazi fulani. Ili a procédé ku recensement. Ao ku et sabia. Batu. Élément et atat, ton asema. Obligation. Kila mutu. Agent recenseur. Ye kwanza. Hekona ile obligation. Hana pacha. Ku denonce kusema ya kwamba huyu tuko natembea naye, huyu tuko natumika naye, halifanya kitendo kinyewe kinakataziwa. Sasa peut-être hulizo watu watasema ni sasa nikapenda kusignalia au kudenonce nitaitilize moyen gani juu ni pouvoir kudenonce. Tunasema elema ya kwanza huko ile tunaita ligne téléphonique. Unakamata simu yako ya mkono, unakompose 49-55-55, unaita, mtu mwa atakupokelea, tunaita teleoperateur, atakujibia na unadenonce le kitendo. Na partir ya pale sasa tutadeklanshele, tunaita processus ya enquête na jutuende kuma sanction. Me avant pale ula liita, inastaili ba mua kompanyi, ba msaidi, ba mpache prise en charge. Na kuna kwele tunaita prise en charge medical, hao tunumeka mukono ya banganga, juba one kama kulikuwa ma consequence watampatia matibabu yenye na staili au tunamweka mikono ambayo tunaita agent psychosocial watamwaccompagner kama ma consequence kwa niveau ya peut-être anakuwa na masusi anakuwa na inquiétude
ma traumatisme
voilà watamwaccompagner. Na ya mwisho tunasema appui juridique, anaweza kusema mie misashimamia hapa, mimi napenda kwenda ti devant les cours de tribunaux devant ba juge tutamwaccompagner hanenda pale peut-être juu ya kumaliza juu ya kufanya que ile risque diminue. Bajan recenseur bataenda toujours être naita en binôme, c'est-à-dire mwanamke na mwanaume. Ina permettre ku réduire les risques d'abus et d'exploitation sexuelle.
Bien, quel est le code de bonne conduite des agents de l'agent recenseur lors des opérations de dénombrement de la population? On en parle avec maître Pascal Banzard, qui est le programme analyste chargé des voilà, c'est lui qui s'occupe des violences basées sur le genre au Fonds des Nations Unies pour la population. Mais une autre question est de savoir, entre agents recenseurs hommes et femmes, est-ce que c'est les abus sexuels ou voilà, demander des faveurs, est-ce que c'est autorisé ces genres de choses?
Totalement interdit.
Interdit.
Totalement interdit.
Et là, on même parlerait... s'ils sont des adultes.
Totalement interdit. Là, on parlerait de harcèlement sexuel. Mais pour bien voir cette question, il faut toujours revenir sur la définition générale que nous avons donnée, le rapport de force, entre les deux personnes. Voilà.
Surtout celui qui se trouve en position d'autorité,
qui ne peut pas abuser de la personne qui est sous sa supervision.
Voilà. Et vous avez dit également que pour les populations là où il n'y a pas une couverture internet, il n'y a pas de téléphone, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place pour collecter les plaintes. Pouvez-vous rappeler ces mécanismes?
Nous avons parlé de boîtes à plaintes ou de boîtes à suggestions, ce qui souvent on voit dans un hôpital, dans une école. Dans un service public, on voit toujours une boîte qu'on appelle boîte à suggestion. La plainte peut être déposée à ce niveau-là. L'information peut être récoltée à partir de ce mécanisme-là. Il y a aussi le mécanisme de points focaux communautaires. Ça, c'est généralement dans l'hypothèse où les gens ne savent ni lire ni écrire ou n'ont pas confiance à ces mécanismes-là, notamment les boîtes à plaintes. Nous avons eu dans d'autres contextes, tels que les contextes humanitaires, des gens ont dit « Bon, je ne veux pas aller là-bas parce que je ne sais pas qui gère, mais je pense que pour moi, si je parle à une telle personne dans la communauté, c'est un peu plus sûr pour moi. » Donc, il y aura aussi ces mécanismes-là, des points focaux communautaires, qui pourront permettre de pouvoir collecter l'information et les canaliser vers les mécanismes de gestion de plaintes.
Et si, par exemple, il y a eu plainte et que l'agent ou le superviseur, le coordonnateur est sanctionné, il peut y avoir des représailles, il peut se dire que non, bon, il peut soupçonner, voilà, c'est la famille de telle personne qui doit être derrière cette affaire, il peut organiser des représailles. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça?
C'est comme ça qu'on a parlé d'abord du mécanisme qui est basé sur le principe de l'anonymat et de la confidentialité. Les personnes qui interagissent avec les mécanismes de gestion de plainte sont aussi formées sur la sensibilité de l'information. C'est un peu, si je prends une image populaire, c'est un peu comme une tombe. Ils encaissent l'information, ils ne sortent pas ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont l'obligation de pouvoir protéger les personnes qui ont dénoncé. Donc je voudrais vraiment rassurer ceux qui peuvent avoir encore ce doute-là que non, ça pourrait entraîner des représailles.
Des
mécanismes sont mis en place pour assurer la sécurité, la confidentialité et l'anonymat de l'information. Et tous ceux qui interviennent dans ces mécanismes de gestion de plaintes sont formés à ces principes directeurs-là.
Bien, avant de terminer, un message à tous ces agents recenseurs qui sont, le processus de recrutement d'ailleurs est en cours, les cartographes et les autres, les analystes, etc. Quel message pouvez-vous leur adresser à cette occasion?
Merci beaucoup. Je pense que le plus important, c'est que ce recensement, le deuxième de notre pays, après plusieurs années, doit être un des recensements qui assure la protection totale des communautés contre les abus et exploitations sexuelles. Les gens qui seront retenus à différents niveaux engagés dans ce recensement savent, puisqu'ils sont formés, ils seront formés au fur et à mesure, qu'ils doivent assurer la protection de communautés. Juste les encourager à pouvoir mettre en application ce code de conduite qu'ils ont signé et auquel ils ont adhéré pour que ce recensement soit totalement un environnement qui protège les communautés contre les abus et exploitations sexuelles.
Bien. Et les séances et formations seront régulières, si je comprends bien.
Oui, il y a une première formation générale et puis il y aura des accompagnements continus et même des sensibilisations continues pour avoir ce rappel-là par rapport à la nécessité, à l'obligation de protéger les communautés contre les abus
et
exploitations.
Et à la communauté aussi, il faut dénoncer.
À la communauté, il faut dénoncer. Il ne faut pas garder l'information. Et vous avez les mécanismes qui sont mis en place, notamment la ligne verte, mais aussi les boîtes à plaintes, les points focaux communautaires.
Bien, Maître Pascal Banza, programme analyste GVB, qui veut dire tout simplement violence basée sur le genre, au Fonds des Nations Unies pour la Population. Merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci à vous, merci à Radio Okapi.
Bien, nous allons suivre dans quelques instants les informations. On va se retrouver après pour aborder un autre thème.